Alors bonjour à chacun et à chacune, à ceux que j'aurais peut-être pas pu saluer avant. Pour le message de ce matin, nous allons voir des versets, en fait, qui sont en lien entre le fameux sermon sur la montagne de Jésus dans l'évangile de Matthieu et l'épître de Jacques. Je pense que ce sera un message que je ferai en deux fois, donc en deux étapes. Donc la première partie, ce qui est logique ce matin, et la seconde, dans un mois, normalement. Hein. Donc, on va voir un premier thème qui est en parallèle dans l'évangile de Matthieu, hein, de ce fameux sermon sur la montagne, et Jacques. Donc, ce premier thème est la compassion. Alors, on va pouvoir ouvrir nos Bibles dans Matthieu 5, verset 7. Matthieu 5, verset 7. Qui nous dit ceci. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et quel est le verset qu'on peut trouver en parallèle de ce passage de Matthieu? Donc, on va dans l'épître de Jacques. Jacques 2, verset 13. Je vais lire à partir du verset 12. Jacques 2, verset 12 et 13. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et certaines traductions traduisent ce verset 13 ainsi. Car le jugement est sans compassion pour ceux qui ne montrent pas de compassion. La compassion triomphe du jugement. En fait, dans ces deux passages que nous venons de lire, dans Matthieu ainsi que dans Jacques, il nous est parlé de la miséricorde ou de la compassion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ici en grec, une fois dans Matthieu et une fois dans Jacques, on a des termes différents, mais ces deux termes, en fait, en grec, ont comme origine soit la miséricorde ou la compassion. C'est deux pensées qui se rejoignent, en fait. Et on peut se dire que dans la pensée biblique, il n'y a pas vraiment de différence entre la miséricorde et la compassion. La miséricorde, c'est quelqu'un qui est enclin au pardon, et la compassion, c'est quelqu'un qui souffre avec, mais pas simplement juste un petit sentiment, hein, mais parce que la personne souffre avec celui qui souffre, ben il va agir d'une façon ou d'une autre pour venir en aide à cette personne. Hein. Donc, sans la miséricorde, il n'y a pas de compassion. Et sans compassion, il n'y a pas de miséricorde. Et notre Père Céleste est comme ça. Il est compatissant envers nous. Il est miséricordieux. Luc 3, Luc 6, verset 36, je vous lis juste comme ça. On n'a pas besoin de tourner nos pages, la Bible. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Verset 36, 37, ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, absolvez et vous serez absous. On a tous besoin de la miséricorde de Dieu, ça c'est certain. On a tous besoin aussi de la compassion du Seigneur. Amen. Dieu souffre avec nous que nous souffrons et Dieu est enclin au pardon et il nous appelle à vivre aussi selon sa nature divine. Il change nos caractères, il change nos regards, il change nos points de vue, afin que nous puissions être miséricordieux parce que nous avons obtenu miséricorde, et que nous puissions avoir la compassion, pas pour se dire « Ah ben nous, vraiment, on est des gens tellement meilleurs que les autres ». Non, simplement, je crois que c'est lui encore qui est la source de cette compassion, et que quand quelqu'un souffre, on aura aussi de la compassion. On ne va pas passer à côté, hein. On va être comme le bon samaritain qui va venir en aide à celui qui est dans la souffrance et à celui qui est dans la difficulté. Soyez donc miséricordieux, ou on pourrait dire compatissant, comme votre Père est compatissant. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Et ça me fait penser, j'avais déjà donné une fois cet exemple ici à l'église, mais je trouve que c'est un exemple qui va bien avec ces versets que nous lisons ce matin. Un ami qui est passé par un divorce il y a quelque temps en arrière, et quand l'hiver dernier il m'a annoncé son intention de se remarier, quand il m'a fait cette annonce, au fond de mon cœur, j'ai tout de suite eu cette pensée, ne juge pas, hein, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Pourquoi ne pas juger? Parce que peut-être, simplement, on ne connaît pas les raisons profondes de ce divorce. On ne sait pas par où est passée cette personne, par d'où elle est venue, quelle éducation cette personne a eue en étant enfant. Et je peux m'imaginer que l'éducation qu'il a eue, alors qu'il avait des parents qui étaient présents pour sa vie, mais que cette éducation a sûrement eu des carences. C'est pas que je juge ses parents, mais malheureusement, ses parents, dans un temps assez proche l'un de l'autre, les deux se sont suicidés, hein, alors que lui, il était déjà adulte. Hein, voilà. Mais triste parcours pour les parents. La maman était dans une profonde dépression, et un jour, elle s'est ôté la vie. Et le père, lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer, l'a caché à sa famille. Et quand le cancer est arrivé à un stade final, il a mis fin également à ses jours. Alors on peut quand même se penser qu'il y a des carences éducatives, des carences de comportement de la part de parents, et ainsi, et que ensuite l'enfant, une fois arrivé à son âge adulte, aura des difficultés face à certaines situations, à peut-être gérer le stress, à gérer la frustration, à gérer des faiblesses ou que sais-je. Hein? Un père qui donne fin à ses jours, c'est un père quelque part, je ne veux pas le juger, hein, une fois encore, hein, mais c'est un père quelque part qui veut se montrer tout puissant, plus puissant que la maladie, puisque ce n'est pas la maladie qui l'emportait, c'est la façon dont il a mis fin à ses jours. Nous venons de lire Jacques 2, verset 13, je lis la fin du verset. « Car la compassion triomphe du jugement. » Ayons la compassion pour les gens qui passent par un chemin difficile, et n'oublions pas que Dieu n'a pas fini avec eux. Dieu n'a pas fini de travailler dans leur cœur. Gardons une relation d'amour, gardons une relation de miséricorde. Et d'ailleurs, dernièrement, un des fils de cet ami qui a divorcé, il a eu un comportement, franchement, parce que je l'ai croisé dans le cadre professionnel, qui était complètement déplacé. Mais voilà, tout d'un coup, j'aurais eu envie, parce qu'il a 13, 14 ans, j'aurais eu envie, comme on dit un peu hein, chez nous, de lui tirer une claque, parce que son comportement aurait mérité, franchement, une claque. Mais la compassion, peut-être, Seigneur, était là, elle n'était pas débordante hein, sur le moment venu, mais j'ai pardonné. Et puisque j'ai pardonné, j'ai tendu la main en premier vers lui. Et j'ai vu que cet enfant, il jouait au dur. Et puis au moment où j'ai tendu la main, il l'a prise. Hein? Donc derrière une carapace, des fois on est étonné, ce que la compassion peut briser la glace, peut faire tomber des murs. Amen. Donc, avoir la compassion. Premier point, entre ce fameux sermon sur la montagne, et l'épître de Jacques. Deuxième point, qui est quelque part une suite, faire la paix. Matthieu 5, verset 9, nous dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et Jacques 3, verset 18. Jacques 3, verset 18, nous dit ceci. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Mon Dieu, que ce monde a besoin d'artisans de paix. Heureux, nous dit la parole, heureux, nous dit le Seigneur, ceux qui procurent la paix. Soyons donc des hommes et des femmes de paix, parce que ainsi, un jour, nous aurons de l'assurance devant Dieu, car oui, Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Jacques nous enseigne, avant ce Jacques 3, verset 18, « Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix », nous enseigne sur ce qu'est la sagesse, afin que, justement, nous puissions semer dans la paix autour de nous. Jacques 3, verset 13, je lis, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Quel genre d'intelligence et quel genre de sagesse conduit nos cœurs? Je pense que honnêtement, si on est honnête, je pense qu'on n'est pas toujours conduit par la sagesse d'en haut. On est humain. Et parfois, on pense être sage, mais on est conduit par une sagesse qui est terrestre. Et si c'est celle qui est d'en bas, alors notre cœur peut être conduit par un esprit amer, un zèle amer, un esprit de dispute, et que avec une telle attitude, il n'y a rien à se glorifier, parce que cette sagesse qui parfois peut conduire notre cœur, agit contre la vérité, c'est-à-dire contre Dieu et contre ses commandements. Cette sagesse n'est pas d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Pourquoi diabolique? Parce que, en fait, cette sagesse ouvre les portes aux puissances des ténèbres qui vont influencer notre vie et peut conduire à des disputes, à du désordre, à toutes sortes de mauvaises actions. Et ceci, que cela soit dans le cadre de nos relations professionnelles, de famille, d'amitié ou encore d'église. Que Dieu sonde nos cœurs, afin que dans nos relations entre nous, entre nos collègues de travail, entre nos amis, entre nos membres de famille, pour le défi, hein, parce que des fois, dans la famille, il y a des vieilles querelles. Hein. Je sais pas si vous avez un peu le même genre de famille que moi. Hein? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des querelles dans vos familles? Non? Dis donc, c'est non, je rigole. Hein? Hein? Et puis, est-ce que des fois, mais moi le premier, hein, est-ce que des fois on retient pas? Hein? Est-ce que des fois on retient? Oh, mais alors ça, je vais pas oublier. Hein? Et puis, on va garder ce zèle amer au fond de nous, et ça va nous ronger intérieurement, alors que l'autre, ça le ronge pas. Mais nous, ça va nous ronger, et ça va nous empêcher d'entretenir une bonne relation avec l'autre, au lieu que peut-être le Seigneur nous donne la compassion, la miséricorde, et que nous puissions tendre la main. Si ensuite la personne ne veut pas de cette main tendue, c'est peut-être trop tôt, ça peut arriver, hein, des fois il faut du temps au temps. Mais si ensuite cette personne ne veut pas de cette main tendue, bon, ben ma foi, on a fait notre travail. Hein, on va continuer avec la joie du Seigneur. On va pas rester attristé parce que quelqu'un nous en veut pour un motif X ou Y, à tort ou à raison. Peut-être il avait raison parce qu'on s'est mal comporté. Mais hein, si on a demandé pardon puis que la personne veut pas du pardon, bon, ben voilà, on laisse les choses entre les mains de Dieu. Mais peut-être au travers de cette démarche-là, la personne va se réconcilier avec nous et nous pourrons continuer notre chemin dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur nous donne donc cette sagesse qui vient d'en haut. Elle nous est donc décrite dans Jacques 3, la sagesse d'en haut. Elle est premièrement pure. c'est-à-dire qu'elle ne reflète pas de mauvaises intentions. Elle est pacifique. Elle ne cherche pas à créer des tensions, des divisions. Elle est modérée, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à s'exprimer à tout prix, à vouloir prendre le pouvoir, tout contrôler. Elle est conciliante. Elle respecte les autres comme des frères et sœurs en Christ. Elle ne se place pas par-dessus les autres, mais elle cherche à construire et à entretenir les liens d'amour et de fraternité. Elle est pleine de miséricorde. Hein, on a vu la miséricorde, ce que c'est, dans le point précédent. Elle est pleine de bons fruits, en effet, car cette sagesse est conduite par le Saint-Esprit et l'amour du Père. Elle est exemple de duplicité et d'hypocrisie. Hein, elle parle sincèrement, elle ne fait pas les choses avec un double langage, et elle ne se cache pas derrière de fausses attitudes ou de faux discours. Elle est semée dans la paix et produit la justice divine envers ceux qui recherchent la paix. Amen. Car en effet, si une telle sagesse anime nos cœurs, alors nous pouvons avoir de l'assurance auprès de Dieu. Jésus nous en fait la promesse. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Soyons ces artisans dans ce monde. On va pas, ça va pas manquer. Ça va pas manquer. Il y aura plein de situations où merci Seigneur, on va pouvoir être un artisan de paix. Hein? Dans ce monde qui est en tension, dans ce monde où les gens sont sur la route, ils sortent du travail, ils sont tendus comme des cordes de guitare, hein, prêts à vous sauter à la figure. Les gens dans les commerces aussi, des fois ils sont tendus, s'ils pouvaient vous marcher sur les deux pieds, ils le feraient, etc., etc. Soyons des artisans de paix. Seigneur, aide-nous parce que le défi est grand, hein. Ne nous laissons pas voler cette paix. Et Seigneur, que nous puissions être miséricordieux pour ceux qui peut-être auraient une mauvaise attitude envers nous. Soyons enclins au pardon. Ne gardons pas sur notre cœur des choses qu'on peut déposer devant le Seigneur. Ne gardons pas des choses que Jésus a porté le prix à la croix de Golgotha. Il ne veut plus qu'on porte ses fardeaux. Hein? On peut penser à chaque situation qu'on a peut-être d'injustice, qu'on a vécu. Moi, j'ai vécu en 2001 une grave situation d'injustice. Il m'a fallu du temps pour pardonner. Hein? Parce qu'il y a tout qui était corrompu dans cette situation. Même la justice était corrompue. Mais voilà, on va pas garder ça. On va déposer ça au pied de la croix. Et puis, on va continuer notre chemin parce qu'on va pas mettre notre identité dans une victime. On n'est pas victime dans le Seigneur. La victime, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a payé le prix pour ça et il nous veut libres ce matin encore. Alléluia. Que Dieu nous aide face à ce défi d'être aujourd'hui encore des artisans de paix. Prochain point, alors il n'est pas tout simple non plus, hein, se réjouir dans l'épreuve. Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, un passage parallèle par rapport à se réjouir dans l'épreuve, Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Aïe, aïe, aïe. Honnêtement, hein, quand vient l'épreuve, quand vient les difficultés, est-ce qu'on tressaille de joie, hein? Est-ce qu'on est rempli d'allégresse? Ah, Seigneur, ah, voilà encore des difficultés. Ah, mais gloire à toi. Voilà, je suis encore persécuté pour ton nom. Quelle réjouissance, quelle joie et quel bonheur. considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Hein? Ça c'est pas la sagesse du monde, ça c'est pas la sagesse humaine. Que tu traverses une situation difficile, que ta famille peut-être traverse une situation difficile, que un membre de ta famille, hein, celui qui est la chair de ta chair, traverse une situation difficile que tu peux pas gérer. Le Seigneur nous dit, considère comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Mais alors pourquoi est-ce que c'est un sujet de joie que de telles situations? Et qu'il est clair qu'en réalité, dans les premiers temps, on peut être surpris par l'épreuve. On peut être dans l'incompréhension lorsque nous traversons des difficultés. Par contre, par la suite, on peut éprouver de la joie. Et pourquoi? Parce que nous allons réaliser que Dieu est à notre côté. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça bien l'essentiel. Si tu traverses une situation difficile, ou si quelqu'un de ta famille traverse une situation difficile que tu ne sais pas comment la gérer, l'important, c'est de t'assurer que Dieu est bien à tes côtés. Amen. Et c'est bien là où sera ta force. Tu vas pas t'appuyer sur ta propre sagesse, tu vas pas t'appuyer sur tes propres possibilités, mais tu vas t'appuyer sur ton Dieu, parce qu'il est là, et que lui, il est fidèle, et que c'est lui, au final, et ne l'oublions pas, c'est lui qui mène le combat. Et si c'est lui qui mène le combat, il va nous conduire à la victoire. D'une façon ou d'une autre, c'est pas l'épreuve qui va nous terrasser. Cherchons dans les situations de difficulté l'approbation divine. Ne recherchons pas l'approbation de ce monde. Continuons joyeusement notre chemin, parce que les persécutions viennent attester que nous sommes enfants de Dieu et qu'une grande récompense nous attend dans les cieux. Et soyons clairs, si on ne dérange pas le diable ne viendra pas nous déranger. Donc si on est dérangé par le diable, c'est que quelque part on le dérange lui, hein? Parce que si on n'est pas quelqu'un qui dérange le diable, il va nous laisser en paix, du moins jusqu'au jour où il décidera de détruire notre vie. Le diable, il est fourbe, hein? C'est pas parce qu'on le dérange pas qu'un jour il va pas se retourner contre nous, hein? On est dans un combat, ça je vous l'ai déjà souvent partagé, et dans ce combat il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable, hein? La neutralité, c'est possible pour un pays plus ou moins comme la Suisse, hein, on pourrait débattre de la neutralité suisse, hein, mais quand bien même on voit que la neutralité suisse n'est pas si parfaite que ça, ben c'est un tout petit reflet de notre situation spirituelle. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable, hein. Ceux qui se disent, ah ben non, moi je vais pas à l'église, je veux pas être chrétien, eh ben en disant ça, tout simplement, ben ils sont du diable. C'est radical, hein, mais c'est la vérité. Il y a pas de neutralité dans le monde spirituel. Soit on est avec le Seigneur, soit on est du côté du diable. Donc si le diable nous attaque, c'est plutôt bon signe, c'est parce qu'on le dérange lui. C'est parce que ce qu'on accomplit au nom du Seigneur est le type de vie qu'on cherche à avoir en Jésus-Christ le dérange profondément. Mais si le diable vient contre nous, ayons de l'assurance, n'oublions pas, comme Éphésiens 2, par exemple, verset 6, nous dit, Jésus, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Sur le plan spirituel, nous sommes déjà ressuscités. Alléluia, hein? Sur le plan physique, pas encore, hein? Je pense qu'on a bien vu qu'on n'a pas encore ressuscité. Mais sur le plan spirituel, nous sommes déjà ressuscités. Et sur le plan spirituel, Jésus nous a déjà fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alléluia. Voilà notre position d'autorité, et c'est pour ça que nous n'avons pas à craindre les ruses du diable, et nous n'avons pas à craindre ses traits enflammés, parce que nous sommes déjà dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. nous avons déjà autorité au travers de notre Seigneur sur toutes les œuvres du diable, sur tout ce que l'ennemi voudrait faire pour nous décourager. Jacques 5, verset 10, continue hein, sur ce thème de se réjouir dans les épreuves. Jacques 5, verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Prenons pour exemple un Job. Hein? Un Job, qu'est-ce que le diable a attaqué? Il a tout perdu. Et ses biens, ses enfants, et au sein de la détresse, sa femme l'a quitté. Il a tout perdu, cet homme. Sur le plan humain, il n'avait plus rien du tout. Et il a eu bien des amis qui sont venus autour de lui pour essayer de l'encourager, mais à un moment donné, leur sagesse, alors que c'était des hommes remplis de sagesse, hein, à un moment donné, leur sagesse n'était plus suffisante. Et ils se sont mis à juger le pauvre Job, en plus, au lieu de l'encourager dans la foi. Prenons, pour exemple, un Job, hein, et persévérons sur le chemin de la foi, parce que un jour, notre récompense sera grande. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Il a fait miséricorde à Job parce que nous aussi, nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur quand on traverse les épreuves. Hein, je pense qu'on est rarement sans péché quand on traverse les épreuves. Parce qu'on peut à un moment donné peut-être lever le poing vers le Seigneur, ou que sais-je, on est humain, Dieu il comprend ça si on traverse des difficultés. Hein, l'important c'est qu'on reste en relation avec le Seigneur. Il comprend peut-être qu'on est des fois découragé, quelque part, simplement quand on est découragé, on est en train de pécher déjà, parce qu'on n'est plus dans la foi, dans la confiance dans le Seigneur. Il comprend peut-être qu'on passe par la dépression, il y a des chrétiens qui, à cause de la difficulté de la vie, passe par la dépression, mais Dieu a compassion de ces gens-là et le Seigneur va les relever parce que il est Dieu. Alors, je dis pas que c'est mathématique, hein. Je veux pas juger ceux qui sont dans la dépression. Il y a des gens peut-être qui arrivent plus à en sortir. Moi, je veux pas juger. Mais je crois que le Seigneur est suffisamment puissant pour relever ces personnes-là et puis pour pouvoir leur redonner une pleine liberté avec Dieu. On ne peut pas forcer la main du Seigneur, c'est un mystère. Moi, je ne veux pas juger la dépression. Je sais ce que c'est parce que je l'ai connu. Hein. Je l'ai connu quand j'avais fini mon premier apprentissage. Et on peut avoir des membres de nos familles qui passent par la dépression. Ben, on ne doit pas être dans le jugement et je ne pense pas qu'on l'est. On doit au contraire être rempli de compassion et espérer que le Seigneur va relever ces gens-là parce que Dieu en est capable. Amen. Ayons donc face à la souffrance de la patience. Et dernier point qu'on va aborder ce matin, respectez toute la loi. Matthieu 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors, un passage parallèle dans Jacques, Jacques 2, verset 10. Jacques 2, verset 10. « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » C'est terrible, hein? La loi, elle est sans pitié, quelque part. On peut observer tous les commandements de Dieu, et puis trébucher sur un seul petit point, eh ben, on est coupable. On est coupable de tout le reste. Hein? C'est la justice divine. La justice divine, elle ne peut pas être moitié-moitié ou 50-50, 60-40, 80-20%. C'est 100%. Du moment qu'un homme pêche, la condamnation et le jugement, c'est sa mort éternelle. C'est certain. Hein? Parce qu'autrement, on va se retrouver au ciel avec des gens qui sont à 90% sauvés. Et puis, il y a 10% qui va rester. Hein? C'est là qu'on voit qu'il est impossible pour l'homme de se sauver par lui-même. Il pourrait y avoir un homme, peut-être sur cette terre, qui a obéi à tous les commandements, mais voilà que sur un petit point, il dérape. Et Dieu est clair. Cet homme-là mérite la condamnation. La loi est sans pitié et elle va faire son œuvre. Alors si on parle de la loi d'un côté, il faut parler de la grâce, hein, parce qu'autrement on ne va pas loin. Sans la grâce du Seigneur sur la vie de chacun d'entre nous, il nous serait impossible d'être justifiés. C'est par la foi que nous sommes justifiés, par la confiance que nous avons en l'œuvre rédemptrice de Christ que nous sommes justifiés. Et c'est parce que nous saisissons cette grâce de Dieu qui peut accomplir des miracles, qui peut transformer nos vies, qui peut changer nos caractères, qui peut nous donner une autre vision de nous-mêmes et de ce monde, que nous pouvons être vus justes devant le Seigneur. Galates 5, verset 4, passage bien connu qui nous parle de la grâce de Dieu. Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Je relis. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Certaines personnes de l'église de Galatie avaient, au lieu d'avoir une foi en Christ, laissé la place à des pratiques légalistes de la loi. C'est quoi des pratiques légalistes de la loi? On peut voir un peu plus une idée de ceci en Galates 1, les versets 6 et 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de notre Seigneur. Et nous devons bien comprendre l'œuvre de la croix et rester au pied de la croix afin que le Seigneur renouvelle sa vie en nous. Et le légalisme peut avoir plusieurs formes. C'est croire qu'en suivant plein d'ordonnances qui ne sont même pas indiquées dans la parole de Dieu, nous allons pouvoir lui plaire. Hein? C'est impossible. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut la foi. C'est pas parce qu'on se mettrait à pratiquer des choses supplémentaires que Dieu prendrait plaisir à nous. Le légalisme peut prendre aussi une forme très spirituelle. Par exemple, en pensant que nous devons œuvrer pour le Seigneur avec plein d'activités diverses et variées, en se mettant une pression sur nous-mêmes ainsi que sur les autres. Hein, ça c'est du légalisme. C'est de vouloir œuvrer à la place de Dieu. Et vous connaissez le psaume 121 qui dit « Ceux qui bâtissent la maison, hein, si ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. » Amen. Hein? Psaume 127, verset 1. En effet. Donc, si ce n'est pas Dieu qui œuvre au travers de nous, on va œuvrer en vain. Rappelez-vous, Jésus, il a dit qu'on était des serviteurs inutiles. Rappelons-nous de ça. C'est une grâce de pouvoir œuvrer pour Dieu, c'est une grâce de pouvoir le servir. Je vais vous donner un exemple un peu plus précis. Si par exemple, toi, tu as à cœur l'évangélisation et que tu te dis, oulala, mais il faut que chaque jour j'annonce le salut en Jésus-Christ, hein, et puis surtout à mes collègues de travail, et puis à les personnes que je croise dans la rue, il faut que je leur parle de Jésus parce qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. Bon, t'as pas tort, hein? Mais tu risques d'œuvrer sans ton Dieu. Et qui c'est qui va convaincre de péché, de justice et de jugement si ce n'est le Saint-Esprit? Donc si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, s'il n'est pas avec toi, ben tu vas parler en vain. Hein? Les gens vont t'écouter, puis ils vont se dire, oh, mais quel religieux, hein, il me barbe. Hier, il me parlait de ça, aujourd'hui, il me reparle de ça. Ou bien, voici que tu recroises une même personne la semaine suivante dans la rue, puis voilà que tu le rebombardes avec des versets bibliques. Ça va avoir aucun effet. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. Regardez l'histoire extraordinaire. Quand le Saint-Esprit est là, mais le pire des truands peut tout à coup vraiment être touché et se mettre à genoux et pleurer et demander pardon pour ses péchés, alors qu'il est peut-être dans une prison et que la justice n'a pas réussi à le faire plier. Il est resté dans son orgueil, plein de lui-même, plein de violence. Mais quand le Saint-Esprit est là, hein, même au milieu d'une guerre, le Saint-Esprit peut toucher des soldats et puis leur faire comprendre qu'ils sont pécheurs et que ce qu'ils font est terriblement mal. Le Saint-Esprit, il agit comme il veut. Il n'est pas conduit par la sagesse humaine. Il est conduit par Dieu lui-même. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes appelés à être un canal du Saint-Esprit. Hein. Quelle grâce! Quelle grâce sur chacun d'entre nous de réaliser que Dieu veut déverser son amour, sa compassion, sa puissance, veut que nous puissions partager la rédemption, la paix que le Seigneur a fait au travers de sa mort sur la croix, et que oui, en effet, il y a encore des gens qui vont se convertir, il y a encore des gens qui vont se tourner vers Dieu. Amen. Hein? Au travers de nos vies simples et mortelles. Mais pas parce que nous œuvrons par nous-mêmes, mais parce que c'est Dieu qui œuvre en chacun d'entre nous par la puissance de son Esprit. Alléluia. Revenons donc à Galates 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ. On pourrait traduire ce terme, donc ici en grec, séparé, kartégeo, donc ce verbe, on pourrait le traduire par rendu vain. Vous êtes rendu vain. Hein? Vous êtes rendu vain. Je relis le verset si on le traduirait comme ça. Galates 5, verset 4. Vous êtes rendu vain de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. On est rendu vain si on cherche à se justifier par soi-même. En effet, c'est plus le Saint-Esprit qui va œuvrer au travers de nos vies, mais c'est nous-mêmes. Et le travail qu'on va faire sera inutile. Et plus grave encore, non seulement on va être rendu vain, ce qu'on va faire sera inefficace pour faire avancer le royaume de Dieu, mais nous risquons d'être déchus de la grâce. Ça, c'est terrible, hein? C'est terrible d'être déchu de la grâce. Ça veut dire qu'on avait saisi par la foi, on avait compris l'amour de Dieu, on avait réalisé qu'on avait besoin de cette grâce divine sur nos vies, et tout à coup, parce qu'on devient légaliste, alors on risque de perdre, on risque d'être mis en dehors de la grâce. Et l'homme ne peut pas être justifié par la loi. On a vu, hein, c'est impossible. Et on peut tous avoir des moments dans notre vie où on va glisser dans une forme de légalisme. Hein. On est humain. Tout d'un coup, on va se croire peut-être très spirituel, mais en fait, on va être légaliste. Et puis, on aura peut-être une parole qui est légaliste dans une situation. Peut-être moi, par rapport à cet ami que je vous parlais, qui parlait passait par un divorce, peut-être que moi, des fois, j'ai une attitude légaliste envers lui, j'en sais rien. Peut-être par moment, j'ai manqué d'amour, peut-être j'ai manqué de compassion, peut-être j'ai manqué de foi dans sa situation, même si, soyons clairs, le chemin qu'il prend aujourd'hui, je ne crois pas que c'est le chemin du Seigneur. Hein? Mais le Seigneur, il veut ramener le pécheur sur le bon chemin. Amen. On peut tous, à un moment donné, dans notre existence, être légaliste. Pour dire les choses autrement, qu'est-ce qui vient s'opposer au légalisme? C'est notre abandon entre les mains du Seigneur. Hein. Du moment où on remet notre vie entre les mains du Seigneur, alors ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Amen. Moi, quand j'étais jeune, je me suis à un moment donné éloigné du Seigneur à cause du légalisme, parce que j'avais pas compris à un moment donné ce qu'était vraiment la foi. Et puis je me suis dit, ah ben si c'est ça la foi, hein, si c'est ça l'Église, pff, ça m'intéresse pas. Et puis voilà, j'ai pris mon chemin, mais le Seigneur était bon parce qu'il m'a ramené auprès de lui. Et c'est vrai que des fois, le légalisme, ça peut décourager les gens par rapport à la foi chrétienne. Parce qu'ils se disent, ah ben si c'est ça la foi chrétienne, ben non, hein, on peut penser aux jeunes aussi. Ayons de la compassion envers eux, parce que peut-être ils traversent des fois des situations difficiles et peut-être des fois ils vont même pas nous le partager, ce qu'ils vivent à l'école, ce qu'ils vivent avec les amis. Il y a des fois les enfants entre eux et les ados aussi entre eux, ils sont terribles, hein. Ayons de la compassion, des fois on va peut-être pas comprendre le chemin qu'ils sont en train de suivre, mais prions le Seigneur. Je vais finir avec ce passage dans Hébreux 13, l'épître aux Hébreux. Chapitre 13, les versets 20 à 21. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et là, l'Église dit Amen. Hein? Dieu a encore des œuvres merveilleuses pour chacun d'entre nous en réserve et il désire qu'on puisse les accomplir en Jésus-Christ. On peut en être certain parce que Jésus est ressuscité des morts. Et si Jésus est ressuscité des morts, c'est afin qu'aujourd'hui, avec lui, à sa suite, nous puissions œuvrer pour l'avancement de son royaume, pour que sa volonté s'accomplisse dans nos vies et au travers de nos vies, et que nous puissions être agréables en Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et ça, tout simplement, en abandonnant nos vies entre les mains du Seigneur, afin que ce soit lui qui puisse régner en chacun d'entre nous. Et ça, voilà, c'est quelque chose. Ça nous rend la vie. Et c'est quelque chose qu'on doit refaire régulièrement. Simplement déposer nos vies. Quand on est dans une situation d'incompréhension, déposons nos vies au pied de la croix. Jésus va en faire quelque chose pour la gloire du Père. Alléluia. Amen.